J'en conviens, Socrate. Conviens aussi que ce qui indispose le public contre la philosophie, ce sont ces étrangers qui, ayant fait mal à propos invasion dans la philosophie, se complaisent dans la haine et les insultes, et se déchaînent sans cesse contre les gens. Conduite très peu séante à la philosophie. Tu as bien raison. En effet, mon cher Adimante, celui dont la pensée est réellement occupée de la contemplation de l'être n'a pas le loisir d'abaisser ses regards sur la conduite des hommes, de leur faire la guerre et de se remplir contre eux de haine et d'aigreur. Mais la vue sans cesse fixée sur des objets qui gardent entre eux le même arrangement et les mêmes rapports, et qui, sans jamais se nuire les uns aux autres, sont tous sous la loi de l'ordre et de la raison, il s'applique à imiter et à exprimer en lui-même, autant qu'il lui est possible, leur belle harmonie. Car comment s'approcher sans cesse d'un objet avec amour et admiration, sans s'efforcer de lui ressembler? Cela ne peut être. Ainsi, le philosophe, par le commerce qu'il a avec ce qui est divin et sous la loi de l'ordre, devient lui-même soumis à l'ordre et divin, autant que le comporte l'humanité, car il y a toujours beaucoup à reprendre dans l'homme. Assurément, Socrate. Et maintenant, si quelque motif puissant l'obligeait à entreprendre de faire passer l'ordre qu'il contemple là-haut, dans les mœurs publiques et privées de ses semblables, au lieu de se borner à former son caractère personnel. Crois-tu que ce fût un mauvais maître pour la tempérance, la justice et les autres vertus civiles? Non, certes, Socrate. Mais si le peuple parvient à sentir une fois la vérité de ce que nous disons sur les philosophes, persistera-t-il à leur en vouloir et refusera-t-il de croire avec nous qu'un État ne sera heureux qu'autant que le dessein en aura été tracé par ces artistes qui travaillent sur un modèle divin? Sans doute, s'il parvient à sentir cela, il ne se fâchera pas. Mais ce dessein dont tu parles, Socrate, de quelle manière le traceront les philosophes? Ils regarderont l'état et l'âme de chaque citoyen comme une toile qu'il faut commencer par rendre nette. Ce qui n'est point aisé, car tu penses bien qu'ils auront d'abord cela de fort différent de la pratique ordinaire, qu'ils ne voudront s'occuper d'un état ou d'un individu pour lui tracer des lois, que lorsqu'ils l'auront reçu pur et net, ou qu'ils l'auront eux-mêmes rendu tel. Et ils auront raison? Cela fait, ne faudra-t-il pas tracer la forme du gouvernement? Eh bien, quand ils viendront à l'œuvre, ils auront, je pense, à jeter souvent les yeux sur deux choses alternativement. L'essence de la justice, de la beauté, de la tempérance et des autres vertus, et ce que l'humanité comporte de cet idéal. Et ils formeront ainsi, par le mélange et la combinaison, et à l'aide d'institutions convenables, l'homme véritable, sur ce modèle qu'Homère, lorsqu'il le rencontre dans des personnages humains, appelle divin et semblable aux dieux. À merveille. Il leur faudra, je pense, souvent effacer et revenir sur certains traits jusqu'à ce qu'ils aient rapproché le plus qu'il est possible l'âme humaine de ce degré de perfection qui la rend agréable aux dieux. Un pareil dessein ne peut manquer d'être fort beau, Socrate. Eh bien, ai-je enfin persuadé, à ceux que tu représentais tantôt, comme prêts à fondre sur nous de toutes leurs forces, que l'homme capable de dessiner ainsi le plan d'un État est ce même philosophe que je me permettais de leur recommander, et auquel ils trouvaient mauvais que nous donnassions les États à gouverner. Peuvent-ils à présent entendre dire la même chose avec plus de sang-froid? Certainement, s'ils sont raisonnables. Que pourraient-ils encore nous objecter? Que les philosophes ne sont pas épris de l'être et de la vérité? Ben, cela serait absurde, Socrate. Que le naturel du philosophe, tel que nous l'avons décrit, n'approche pas de ce qu'il y a de meilleur au monde? Impossible. ou qu'un semblable naturel, cultivé par une éducation convenable, n'est pas plus propre que tout autre à devenir au plus haut degré vertueux et sage? Accorderont-ils plutôt cet avantage à ceux que nous avons exclus du nombre des philosophes? Ben non, Socrate. Et quand ils nous entendront dire qu'il n'est point de remède aux maux publics et particuliers, et que la forme de gouvernement dont nous faisons la fiction ne se réalisera jamais, si la philosophie ne possède toute autorité dans l'État, s'effaroucheront-ils encore de nos paroles? Un peu moins, j'espère, Socrate. Allons. Veux-tu que nous n'en restions pas sur cet « un peu moins » et que nous les déclarions tout à fait radoucis et persuadés, quand la honte seule les obligerait d'en convenir? Je le veux bien. Tenons-les donc pour persuadés à cet égard. À présent, pourrait-on contester que des enfants de rois ou de chefs de gouvernement puissent naître avec des dispositions pour la philosophie? Ben non, personne. Et voudrait-on dire que, lors même qu'ils naîtraient avec de pareilles dispositions, c'est une nécessité qu'ils se pervertissent? Nous aussi, nous convenons qu'il leur est difficile de se préserver, mais que, dans toute la suite des temps, pas un seul ne se sauve, c'est ce que personne n'oserait dire. Assurément non, Socrate. Or, il suffit qu'il s'en sauve un seul, et que celui-là trouve ses concitoyens disposés à lui obéir, pour exécuter tout ce qui passe aujourd'hui pour impossible. Un seul suffit, en effet. Et s'il arrive que le chef d'un État établisse les lois et les institutions dont nous avons parlé, il n'est pas impossible que les citoyens consentent à s'y soumettre. Non, sans doute. Mais est-ce une chose étrange et qui répugne que le projet que nous avons conçu vienne un jour à la pensée de quelque autre? Je ne le crois pas, Socrate. Nous avons, ce me semble, assez bien démontré que, s'il est possible à exécuter, rien n'est plus avantageux. Oui. Concluons donc que si notre plan de législation vient à s'exécuter, il est excellent, et que, si l'exécution en est difficile, du moins n'est-elle pas impossible. Cette conclusion est juste, oui. Puisque nous voilà, non sans peine, arrivés à ce résultat, voyons ce qui suit, c'est-à-dire de quelle manière, à l'aide de quelles sciences et de quels exercices se formeront les hommes capables de maintenir la constitution de l'État, et à quel âge ils devront s'y appliquer. Voyons alors.